Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Ah, mes amis, cette petite musique qui nous annonce une place du marché. Bienvenue, beau dimanche où l'été s'étire et on va profiter des fruits, des légumes de saison et des beaux produits de nos marchés. Alors, vous le savez, l'émission Place du marché, c'est le magazine de l'alimentation, de la cuisine, de la gastronomie et aussi des tendances dans le secteur. Généralement, je reçois ici plutôt des acteurs du secteur, genre chefs, pâtissiers, charcutiers, fromagers, enfin les artisans des métiers de bouche, comme on dit. Mais comme ce matin, je voulais faire le point sur les tendances de cette rentrée, je me suis entouré d'influenceurs, de blogueurs, d'instagrammeurs, de youtubeurs. Moi, j'ai trouvé un mot pour ça, puisqu'on parle de tendances, je les appelle les tendanceurs. Les e-tendanceurs, puisqu'ils sévissent sur le net. Dans quatre secteurs de notre alimentation ce matin, notre alimentation quotidienne. Alors, leurs médias sont ceux qui peuplent votre quotidien, sur les ordinateurs, smartphones, tablettes, à savoir 1. Instagram, parce que j'aime bien aussi, Facebook, Twitter, YouTube, etc., etc., sans parler des blogs. Et ce sont les nouvelles plumes et les nouveaux visages des réseaux sociaux dédiés à tout ce qui se mange et se boit. Alors, j'ai nommé, et je les accueille, Anne Debache. Anne Debache, dite Sœur Chocolat, ça fait un petit peu religieuse. Hein. Bonjour Anne.
Bonjour Vincent.
Alors, votre Instagram, votre compte, votre page, votre mur, comme on dit, c'est le chocolat dans tous nos états. C'est ça ?
Exactement.
Et quand on dit sœur chocolat, c'est parce que vous travaillez toute l'année avec votre sœur. Et donc, on vous a surnommé dans le métier les sœurs chocolat. Hein, oui, ça fait moins religieux du coup.
Exactement. Ça fait sœur gourmande.
Voilà, les frangines qui se passionnent pour le chocolat. Donc, vous imaginerez bien qu'on démarrera cette émission avec ce secteur. À côté d'Anne Debache, nous avons Alexis Gondek-Garozzo, dit Alexis Pizza Crusader, ça c'est le nom sur Instagram.
Salut Vincent, ouais, c'est mon nom sur Instagram. Et j'essaye de l'utiliser pour mon blog, pour YouTube, pour que les gens puissent me reconnaître.
Eh ben voilà. Et alors tout le monde ne sait pas écrire Pizza Crusader, parce que Crusader, hein, comment ça s'écrit Pizza Crusader ?
C'est un mot anglais. Hein.
Bah oui, oui, voilà, oui.
On dit
bah
Pizza
oui.
Crusader normalement.
Ah, Crusader.
Voilà. Sinon ils disent Pizza Crusader.
Crusader. Ah,
C-R-U-S-A-D-E-R.
Bah voilà.
La croisade de la pizza.
La croisade de la pizza, oui, c'est un croisé, notre
je
Alexis.
Suis un croisé.
Hein, il a pris les armes, il a enfourché souvent des motos d'ailleurs. Voilà. Et on va le voir dans l'émission, mais vous faites non seulement le tour de l'Île-de-France, de la France, mais là, par exemple, tout l'été, je vous ai suivi dans le sud de l'Italie.
Ouais, j'ai fait, je suis parti par Rome, j'ai commencé à Rome et je suis descendu jusqu'en Sicile.
Ben voilà.
Et la suite, c'est mondial.
Carrément. À côté de vous, plutôt face à vous, Morgan Abou, qui lui, on va dire, est un gastronome. Vous découvrirez que ce ne sont pas forcément leurs métiers de formation, hein, de s'occuper de gastronomie et de cuisine. Et vous avez un œil particulier, Morgan, sur les cuisines du monde, les restaurateurs de cuisine du monde.
J'adore les voyages et j'adore emmener les gens avec moi dans mes aventures culinaires. Et oui, la cuisine du monde, c'est tellement vaste. C'est un plaisir.
Et sur Instagram et les réseaux, c'est sous votre nom.
Exactement. Hein parce que c'est moi, je vous emmène avec moi dans mes aventures. Et voilà.
On et qui m'aime me suivre et qui m'aime pas, tant pis.
Exactement.
Et ben voilà,
tout
c'est
simplement.
Bien. Ça sert à ça également de voyager sur le net. Et puis à côté, Priscilla Lanzarotti.
Bonjour.
Bonjour Priscilla.
Bonjour Vincent.
Vous aussi, vous avez un compte sous votre nom.
Voilà, j'ai un compte sous mon nom et puis j'aime partager mes aventures gourmandes avec...
La pâtisserie.
Voilà,
c'est
la pâtisserie,
ça, votre truc,
c'est
hein.
ma grande passion.
Ah, vous êtes un bec sucré, comme on dit.
Infiniment bec sucré, qui mange deux pâtisseries par jour.
Voilà. Eh bien, ça ne se voit pas. Hein.
Ouais.
Vous qui n'êtes qu'à la radio et qui ne pouvez pas la voir, mais vous verrez sur les réseaux sociaux, je posterai la photo, ouais, c'est quand même la plus mince d'entre nous. Comme quoi, la pâtisserie, hein, si elle est bien menée, elle ne fait pas forcément grossir. On va tout de suite commencer avec Anne Debache. Allez, un petit chocolat en amuse-bouche. Le chocolat, ça plaît à tout le monde. Enfin, globalement, hein. C'est fou d'ailleurs. Je tiens également à dire que vous avez intégré cette année le club des croqueurs de chocolat, le club très envié hein, des croqueurs de chocolat, parce que ça, c'est vraiment la mecque. Je dirais que c'est l'acmé du chocolat. Et je cite quand même le président du club des croqueurs, oui, qui est Jacques Pessis, qu'on retrouve tous les jours, évidemment, dans Les Clés d'une vie sur Sud Radio. Alors, Anne, c'est quoi la tendance du chocolat ? Parce que c'est ça qui m'intéresse à travers vous quatre, c'est de décrypter un peu les tendances nouvelles.
Alors, il y a quelques années déjà, on a commencé à mettre en avant le goût.
Oui.
Donc, les chocolatiers ont vraiment travaillé le goût du chocolat.
Mais c'est-à-dire le goût, c'est-à-dire les crus, par exemple, les
Exactement.
Différentes origines ?
Le goût, donc on a vu apparaître des tablettes grand cru, origine, plantation, même des millésimes. Mmh. On commence à parler de plus en plus de terroir, de cépage. On a un vocabulaire qui se rapproche du vocabulaire du vin.
Oui.
Mais depuis peu, donc depuis 2018-2019, ce qu'on voit apparaître vraiment, c'est la tendance du bean to bar, c'est-à-dire de la fabrication.
Oh, il y en a qui n'aiment pas ce mot, hein, cet anglicisme.
Je la traduis.
Oui.
C'est-à-dire la fabrication du chocolat à partir de la fève. Donc, y a
c'est toujours le cas.
Oui, mais ce ne sont pas forcément les chocolatiers qui le font.
Voilà.
Les chocolatiers achètent leur chocolat.
Ce qu'on appelle la couverture, c'est ça ?
Des couverturiers,
du chocolat, comme de la tablette.
À des couverturiers qui ont pour mission de transformer une fève en matière chocolat. Et ensuite, le chocolatier va transformer cette matière chocolat selon leur recette en tablettes de chocolat, en bonbons de chocolat, en pâtisserie.
Dites-moi si, arrêtez-moi si je me trompe, hein, Anne. C'est comme si on demandait à un pâtissier qui fait du feuilletage de traire les vaches, d'extraire la crème, de faire son beurre.
Exactement.
Quoi. Hein, c'est-à-dire on
exactement.
A transformé depuis la matière première jusqu'au produit final qui est la tablette de chocolat ou le bonbon de chocolat.
Pas, oui, exactement.
Oui, mais alors ça demande un équipement complètement différent.
Un équipement, ça demande aussi d'aller sourcer son chocolat. Donc les chocolatiers qui font ça, qui ont décidé d'aller sourcer les fèves de cacao, sont généralement la moitié du temps dans les plantations,
dans le monde, oui.
Pour aller goûter, découvrir, échanger avec les planteurs. Mais c'est aussi un gage de qualité et de traçabilité.
Oui, puis vous avez remarqué, vous qui nous écoutez et qui connaissez un peu le chocolat, que les plantations de cacao ne sont pas dans votre région ou proche de votre région. Je vois que dans l'Essonne, en Seine-et-Marne, il n'y a rien. Dans le Gers, il n'y a pas grand-chose. Du côté des Alpes de Haute-Provence, non plus. Donc ça veut dire qu'ils partent loin, ils sont obligés de délaisser leurs officines.
Ah oui. Oui, mais ils ont généralement des brigades, des équipes. Mais c'est très important d'aller sourcer des bons produits pour justement nous faire découvrir toute la palette aromatique du chocolat.
Mmh, d'accord. C'est pas encore la majorité des chocolatiers.
Non, c'est pas la majorité, mais c'est une véritable tendance parce qu'il y a maintenant des jeunes chocolatiers qui s'installent et qui, dès le début, avec un petit matériel dans un tout petit lieu, veulent aller chercher, enfin, même s'ils ne se déplacent pas forcément, ils achètent leurs fèves et ils veulent les transformer pour créer leur goût chocolat.
Vous avez des chocolats de garage, comme on faisait des vins de garage ? C'est-à-dire des petites productions artisanales ?
Un peu. Mm-hmm. Il y en a certains sur Paris, notamment.
Il y en a certains sur Paris ? Des noms ? Allez-y.
Des noms. Alors, il y a Marc Chinchol qui est installé rue Croix des Petits Champs.
D'accord.
Et il y a aussi Ara Chocolat, évidemment, qui est rue de Dunkerque. Mmh. Et qui fait son chocolat. Donc, ce sont des labos qui font moins de 20 mètres carrés. Et ils ont un peu de matériel, des gros sacs de fèves. Et donc, ils transforment à leur échelle et ils font des tablettes.
On rappelle quand même que le travail de la fève de cacao, ça commence... Alors, récolte, évidemment. Séchage, fermentation. Donc, c'est déjà... Il faut mener, c'est pour ça qu'on fait des analogies avec le vin. Hein. Il y a une fermentation de la fève.
Pour développer les arômes du cacao.
D'accord.
Et donc, le futur chocolat.
Okay.
Ensuite, il y a la torréfaction. Donc, on s'arrête après le séchage. Les fèves sont mises dans des sacs. Elles arrivent en France. Et là, elles vont être transformées en couverture chocolat. Donc, elles vont être torréfiées et ensuite conchées.
Alors, quand on les torréfie et qu'on les mousse, ça fait du cacao. La poudre de cacao.
Oui, de la pâte de cacao.
Ou de la pâte de cacao. Et ensuite, on y rajoute quoi ? Du gras, du sucre ?
On fait la recette. Donc, on y rajoute du beurre de cacao, du sucre. Et si c'est du chocolat au lait, du lait en poudre.
D'accord. Et le beurre de cacao, il est déjà dans la cabosse,
là, il y en a déjà, en effet. Mais parfois, on est obligé de rajouter du beurre de cacao pour donner de l'onctuosité au chocolat.
D'accord. Oui. Bon, ça, c'était très intéressant. Donc, ça, c'est une tendance forte. Une autre, peut-être, sur l'aromatisation des chocolats ? Ou est-ce que vous avez
Une autre tendance forte, c'est le côté équitable, commerce équitable.
Ah oui.
Parce que dès lors que les chocolatiers se déplacent, ils ont découvert le travail des planteurs et ils ont mis un point d'honneur à payer les fèves au juste prix, qui est un versant du commerce équitable.
Bien sûr,
le commerce équitable, c'est beaucoup plus large.
Bon, qui dit équitable dit durable aussi, c'est-à-dire qu'on s'occupe vraiment de la santé
durable,
de la planète.
Durable, bio, on fait attention aussi à la non-utilisation de pesticides.
Mm-hmm. Non-utilisation de pesticides, sans être obligatoirement bio. Hein,
sans avoir forcément le label bio.
Oui, c'est ça,
hein.
Parce que ça se paye,
un label bio. Il y a des toutes petites plantations qui n'ont d'abord pas les moyens de se payer des pesticides, qui n'ont pas les moyens de se payer le label bio. Donc, et puis, en plus, le bio n'est pas forcément un gage de qualité et de goût.
Ah, gustativement parlant, ça, on est d'accord. Et pas que dans le chocolat. Merci, Anne Debache. Vous savez quoi ? On va se quitter pour une petite page de pub. Et au retour, je vais vous demander votre palmarès des meilleures plaques tablettes de chocolat pour la rentrée. Allez, à tout de suite.
Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Ouh là 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 là, ça sentait bon le chocolat juste avant la pause dans le studio avec Anne Debache et ses confrères et consoeurs tendanceurs, des e-tendanceurs puisque ce sont les tendanceurs des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, avec des chaînes YouTube évidemment. Alors Anne Debache, j'avais promis avant la pause qu'on parlerait de votre palmarès. C'est sympa de l'avoir fait Anne parce que vous avez une actualité extrêmement chargée là à la rentrée avec le club des croqueurs des chocolats et le salon qui s'annonce.
Tout à fait. Le salon du chocolat fête ses 25 ans. Mmh. Et à ce salon, le club des croqueurs de chocolat va proposer son guide best-of.
Mmh. Et
va
ceux qui
présenter aiment... son guide best-of.
Alors là, voilà, là c'est un rendez-vous pour tous les amateurs. Et je dirais qu'il y a aussi les amateurs de belles personnes en dehors des beaux chocolats, puisqu'il y aura un défilé normalement de toutes les robes en chocolat depuis 25 ans. On va ressortir les plus belles. Évidemment, pas portées par des mannequins trop moches, il faut bien le dire. Non. Et je dois dire qu'elles mettent formidablement en valeur les créations des chocolatiers. Donc ça, c'est au sein du chocolat. Allez, vous avez une minute pour me donner vos 5 meilleures tablettes pour la rentrée.
Alors on y va, sortez vos papiers. Première tablette.
Oui.
Stéphane Bonnat.
Oui. Ça c'est Voiron.
C'est Voiron.
Oui. La en Isère. Non mais pour dire où c'est, parce que si ceux qui sont à Montauban ou
c'est
à Brest.
Voilà. Voiron en Isère. Alors j'ai choisi la Selva Maya, qui est une tablette de chocolat noir, très ronde, équilibrée, fruitée. Coup de cœur.
Enfin ronde, elle est quand même rectangulaire la tablette.
Elle est rectangulaire, bon, d'accord. Mais très ronde.
Le goût est rond.
Mais
d'accord.
Très ronde.
Super. Je peux vous dire que vos collègues ils sont bouche bée là. Ils attendent et puis ils prennent des notes. Allez, Anne, la deuxième.
Deuxième tablette. J'ai choisi Diogo Vaz, un peu moins connu, un chocolatier qui arrive, qu'on a découvert l'année dernière au Salon du Chocolat et j'ai choisi une tablette.
Il est où lui? Dites-moi à chaque fois.
À Sao Tomé.
Ah oui. D'accord.
Donc il a des plantations à Sao Tomé. Il fabrique son chocolat à Sao Tomé, mais on peut l'acheter évidemment dans des épiceries fines. En France et aussi par e-commerce.
Sao Tomé, île de l'Atlantique, face à l'Afrique.
Exactement.
D'accord.
Donc, je vous ai choisi sa tablette de chocolat non torréfié. On parle aussi beaucoup de cacao cru.
Ah oui ?
Donc voilà. Ouais. Non torréfié, c'est-à-dire qu'il a été fermenté, séché, et c'est tout. Et on en a fait une tablette.
Ça a un goût fruité, beaucoup plus fruité.
Un goût plutôt végétal. Je ne dirais pas fruité, végétal, au plus près de la fève, en fait. Proche du mucilage. C'est très bon, c'est très intense. Mais c'est excellent.
Mais c'est différent.
Excellent et différent, il faut goûter.
Vous savez, alors on est déjà à Voiron, à Sao Tomé. On continue
on
avec.
On part maintenant à Dijon.
Ouais, super.
Chez Fabrice Gillotte.
Bien sûr.
Et là, je vous ai pris une tablette hyper gourmande. Avec un duo praliné amande noisette croustillant et un petit caramel coulant. Enrobé d'un chocolat noir.
Ça y est, il y a Priscilla Lanzarotti qui s'arrive. Ouais. Je l'ai vu, c'est la première qui s'est révélée.
Enrobé d'un chocolat noir équateur. Donc quand je vous parlais des terroirs, des crus, magnifique, une merveille.
C'est un super chocolatier, il faut le dire. Oui.
Alors, je poursuis mon chemin.
Oui, là...
Et alors là, Jean-Charles Rochou à Paris. Je vous ai choisi une tablette éphémère aux fruits frais de saison qu'il ne fait que le samedi, qui doit se manger sous 48 heures.
C'est-à-dire que la saison, c'est le samedi, quoi. Donc aujourd'hui, dimanche, c'est foutu. Il faut qu'on attende la
samedi
semaine
prochain.
Prochaine.
Samedi prochain. Alors samedi prochain, je vous prédis, soit une tablette Mirabelle fraîche, s'il y en a encore au marché, soit du muscat, soit de la figue.
Ah, génial. Et il arrive à mettre du fruit frais dans le chocolat, dans la tablette.
Du fruit frais.
Extraordinaire. Bravo.
Extraordinaire.
C'est comme un dessert. Vous avez bien noté, hein, Voiron, Sao Tomé, Dijon, Paris, on termine à Paris, avec le palmarès. Vous le retrouverez évidemment sur le site de Sud Radio. Merci beaucoup, Anne Debache. Maintenant, nous allons passer au plat de résistance avec Alexis. Alors, Alexis Pizza Crusader, de son nom Alexis Gondek Garozzo. Ouais. Garozzo, ça sonne italien un peu.
C'est
quand même.
Sicilien, 100%.
Ouais, c'est ça.
La même.
Il y a de la Sicile en vous. Alors, Alexis, la pizza, elle est napolitaine d'origine, mais c'est évidemment tout le sud de l'Italie.
D'origine, elle n'est même pas napolitaine. Hein.
Ouh là là, ça y est.
D'origine, elle vient d'Afrique du Nord.
Ah,
mais
voilà.
Là, on remonte à très très loin et je crois que c'est plus trop la question. Et partons de Naples. C'est la base de mon travail.
D'ailleurs, vous avez tourné énormément pendant les vacances. Hein. J'ai suivi sur Instagram vos aventures, beaucoup de stories. Où on vous voit enfourcher des scooters et des motos improbables pour vous emmener vers des pizzerias inconnues.
Toujours avec un casque.
C'est ça que vous aimez. Alors, Alexis, moi, d'abord, je vous pose la question de la tendance de la pizza là, pour cette rentrée. D'abord, la pizza, ça reste quand même un des plats les plus consommés, une des spécialités les plus consommées des Français, et pas seulement les Américains, qu'est-ce qu'ils en mangent. Pendant des années, ça a été la mode du mauvais fast-food. Hein, moi, je n'ai pas honte de citer quelques marques, que ce soit Domino's, Speed Rabbit et autres, ou les pires, les pizzas surgelées qu'on trouvait voilà, de très mauvaises marques. On en a vu une dans l'émission de Michel Simès la semaine dernière, avec 52 intrants à l'intérieur, 52 ingrédients. Non, mais effarant. Vous, vous vous battez pour la pizza, je dirais, la plus naturelle et la plus authentique possible.
Oui, absolument. Ouais. Sur Paris, ouais, c'est exactement ce que j'essaie de faire. Il y a deux tendances. Hein. Il y a toujours la tendance actuelle de la napolitaine, qui est toujours en effervescence et qui continue à augmenter. Je pense que comme tout boom, il y aura une résorbation et qu'il se passera autre chose derrière. J'ai déjà ma petite idée là-dessus.
Oui.
Et il y a un truc qui arrive, c'est la street food.
Ah,
il se passe énormément
ouais.
de street food en Italie. Les gens mangent énormément dehors puisqu'on est quand même dans un pays où il fait très beau.
Ouais, et puis il y a réchauffement climatique, donc évidemment c'est...
Voilà, donc je crois énormément cette année au développement de la street food, à la pizza frite.
Hein,
la
pizza frite. Ouais. Le beignet de pizza.
Absolument.
C'est un peu comme un calzone.
C'est une calzone. Il y en a qui le font au format calzone, donc grande ou plus petite. Je pense qu'à Paris, on va opter pour des plus petites, hein, parce qu'on est gourmand, mais pas trop quand même, parce que c'est assez gras.
Ouais, ouais. Et puis quand on en a mangé une entière.
Fromage, chicho, voilà, donc c'est costaud. Donc voilà, moi je pense que cette année, on va rester là-dessus, sur la pizza napolitaine et le développement de la street food.
Moi, ce qui me sidère, hein, parce que vous êtes jeune et vous avez la ligne, Alexis, vous mangez grosso modo au moins deux pizzas par jour ?
Je mange, 5 à 7 pizzas par semaine.
C'est ça, donc une
à
par jour.
Près.
Allez, on va
à
dire une
près.
Par jour. Hein,
à peu près.
Selon vos déplacements.
Sur le lycée, oui.
Hein, d'autant que ce n'est pas votre métier d'origine.
Non. Hein,
vous êtes barman à Paris.
Oui, c'est ça.
Hein, et de nuit, donc merci de vous être levé d'ailleurs, parce qu'il y a
dormi,
le samedi soir, c'est chaud hein, quand même.
J'ai pas dormi.
Et ça, c'est votre passion, la pizza.
C'est devenu une passion. En fait, j'ai pris un pari. Hein, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ce Instagram ? J'aime la food. J'aime la food italienne. J'aime la pizza. Et j'ai fini par comprendre que c'était quand même un produit qui était universel.
Eh oui.
La pizza, on l'entend.
Carrément, carrément.
Il y a une spécialité à Cuba, il y en a dans le sud de l'Amérique, il y en a en Russie, il y en a en Asie. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe à Paris avec la pizza ? Et je crois que je suis en train de gagner mon pari parce que ça bouge.
Ça oui, bouge ça bouge bien, pas mal. Ouais. Morgan Abou, vous aimez la pizza ?
Oui, et justement, en t'écoutant, je pensais à des choses fondamentales dans la cuisine italienne de manière générale et qui se retrouvent dans la pizza. C'est ce côté pas cher, donc hyper accessible, avec des super produits. Et donc, on a de plus en plus sur Paris des gens qui vont chercher des petits producteurs en Italie qui nous ramènent des très bons produits en 24 heures et qui proposent de l'ultra frais. Et voilà. Donc, c'est une très belle tendance italienne, je suis complètement d'accord.
C'est un petit peu aussi le pourquoi j'utilisais ce terme croisade, hein, c'est pour essayer de balayer un petit peu les a priori qu'on avait sur la pizza et sur la mauvaise food et sur les mauvais produits. Mm. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de pizzaiolos. Je pense qu'un bon pizzaiolo, sans critiquer, il fait du sourcing.
Il va chercher les bons produits.
Il va regarder la tomate, il va regarder l'huile d'olive, il va regarder le fromage, c'est extrêmement important.
Parce que,
c'est sensible.
Soyons clairs, une pizza, c'est pas autre chose qu'un sandwich chaud. Au fond, hein, c'est du
c'est
pain.
Beaucoup plus que ça.
Oui, non, mais à la base, c'est quand même du pain, parce que la qualité de la pâte à pizza,
c'est pâte à pain,
cette pâte à pain, et dessus sont les ingrédients qu'on va mettre.
Absolument.
Hein, donc, à un moment donné, le tronc commun, c'est la pâte.
C'est la pâte.
Et dessus, comment est-ce qu'on va l'habiller ? Et évidemment, lorsqu'on a de mauvaises pizzas, on a des ingrédients horribles, alors que maintenant, chacun cherche sa différence, peut-être, dans ses restaurateurs.
C'est vrai. Je vais reprendre le terme d'un pizzaiolo que j'aime beaucoup, qui a dit que, surtout à Paris, il n'y a pas de frontières. Je pense que les Français deviennent experts en pizza, parce qu'on est quand même les consommateur numéro 1 dans le monde. On est autour de 10 kilos par an, je crois.
Ouais, ouais, c'est pas mal.
Quand même pas mal.
Ouais.
Je pense que je dois bien relever la moyenne.
Ouais, moitié de mozzarella.
Voilà. Et oui, c'est important de pouvoir se situer et de savoir exactement ce qu'on met sur une pizza. Tout à fait.
Alors, ouais. Alexis, excusez-moi.
Il n'y a aucun problème.
Et si je vous demande, comme je l'ai fait pour Anne de Bâche, votre palmarès, peut-être vos coups de cœur de la rentrée.
Alors, j'ai fait mes devoirs, Vincent, moi.
Ah bah génial.
J'ai fait mes devoirs, je l'ai mis sur Instagram.
Formidable.
J'ai fait une petite story permanente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient. Donc, j'ai fait mon classement Best Pizza Paris 2019.
Alors, je peux vous dire un truc, il ne sort pas de papier, il sort son smartphone.
Pourquoi pas ? Il est grand.
On voit qu'il est dans le game, hein. Il est dans le game, Alexis.
On peut écrire avec un téléphone. Donc, ça, c'est pour 2019. Donc, c'est en devenir.
Je vous écoute.
Alors. Donc, par style, la meilleure pizza napolitaine de Paris, c'est chez Fratelli Castellano.
C'est où, ça ?
C'est dans le 15e arrondissement.
Fratelli Castellano.
Voilà.
De toute façon, on retrouve tout sur votre compte,
absolument
Alexis,
tout.
Pizza Crusader, _ Pizza Crusader.
Allez checker les stories permanentes, allez regarder mes posts, voilà.
Bien sûr.
Faites-le, vous allez voir, c'est un vrai voyage, c'est agréable. Fratelli Castellano, c'est pareil, ils travaillent pratiquement à 100% sur leur sourcing propre. D'accord. Ben, ils font tout entre les Abruzzes et Naples. Donc c'est,
Et est-ce qu'on peut rappeler que la particularité de la pizza napolitaine, c'est un four à 400 degrés. C'est-à-dire qu'on va cuire très vite, hein, contrairement à la romaine.
Contrairement à la romaine qui prend entre 3 et 5 minutes, je crois.
D'accord.
Ça dépend des ingrédients qu'on a dessus. Mais
donc quand on a des camions pizza, en général, c'est plutôt d'essence napolitaine. Hein, quand il y a des fours réfractaires dans des camions.
Voilà, bon, on ne va pas parler de Marseille, c'est autre chose.
D'accord.
Hein, j'y viens, Marseille, j'y vais bientôt.
D'accord,
la semaine normalement. Mais en principe, c'est ça, ouais, absolument.
Autre catégorie.
J'ai la portafolio. Qu'est-ce que c'est la portafolio? C'est une pizza qu'on mange dans la rue. C'est une pizza pliée en deux ou en quatre.
Ah oui.
Typiquement napolitaine.
Oui.
Voilà. Il y a un leader pour moi à Paris qui se positionne au-dessus des
autres. C'est
Mania.
C'est Mania. Ouais. Et Mango rigole. Voilà. Hein, Julien Serti.
Julien Serti, voilà.
Ouais, Serti, pardon.
Voilà. Ouais. Il se reconnaîtra, évidemment. Il y a lui et après, il y a les autres.
Voilà. Bon, ben bah, d'accord. Car, oui, et lui aussi, sourcing produit hallucinant.
À lui, c'est à 100%. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très proches et que j'aime beaucoup le travail qu'il fait et j'apprends beaucoup de lui. Parce qu'il a fait un travail sur sourcing qui est énorme.
Morgan,
je trouve ça génial, son mur des producteurs, où on voit même la photo des producteurs.
Ouais, voilà, bien sûr.
Il va jusqu'au bout des choses, c'est génial.
Les restaurateurs étoilés le font, ouais. Hein, de mettre en avant leurs producteurs. Il n'y a aucune raison qu'un pizzaiolo qui travaille avec conscience ne le fasse pas non
plus.
C'est
extrêmement important de parler de ces gens-là. C'est pour ça que j'essaie de faire aussi cette année sur ma page Instagram, parce qu'on leur doit tout, en fait.
Bah, exactement. Voilà. Hein, si on sait bien le mettre en œuvre. Allez, un troisième.
Ave Pizza Romana, donc pizza romaine.
Ouais.
Dans le 11e, à l'appareil, c'est Ronnie qui fait un travail exceptionnel. Ave Pizza Romana, ne la loupez pas. Elle est fine, il y a moins de pâtons, donc il y a moins de pâtes.
Ouais,
c'est
ouais.
Plus digeste. Moi, je crois en la pizza romaine à Paris pour la suite.
Ouais, d'accord. Et enfin, un quatrième.
J'en ai 8, mais on va
prendre une pause quatrième. Pour digérer, parce qu'on a déjà 3 pizzas dans le buffet. Là.
J'appelle ça hybride pizza, parce qu'il y a un mélange de farine entre la farine française pour faire du pain et la farine italienne. Ce sera Brick Top Pizza. Voilà, il y a deux restaurants, il y en a un à Clichy et un à Paris sur les quais de Valmy.
D'accord.
Brick Top Pizza.
Brick Top Pizza. J'espère que vous avez noté. Hein. Je vous dis, on les retrouvera évidemment, tous ces noms de pizzeria. Bientôt, vous reviendrez parce que je voudrais qu'on aille un peu à Marseille. Vous m'avez dit que vous y voyagerez.
Avec plaisir. Ouais, j'ai beaucoup de demandes. Il faut vraiment que j'aille les voir parce que ça fait un moment qu'ils sont sur le marché.
Génial.
Ce ne serait pas respectable.
Merci. Restez avec nous parce qu'on va continuer de voyager dans une seconde avec Morgan Abou et ses cuisines du monde. Lui a aussi son palmarès et la tendance sur Sud.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
La tendance de la restauration, de la cuisine, de nos goûts, de notre façon de consommer, elle est ici, place du marché, avec des tendanceurs, tous ceux qui chaque jour vous montrent les plus belles choses, vous donnent envie en fait hein, de sortir de chez vous, d'aller découvrir vos commerçants, vos producteurs, vos restaurateurs et tous les commerces de métier de bouche, eh bien ils sont avec moi et on a déjà passé en revue la tendance du chocolat, on a passé en revue la tendance de la pizza et on en vient aux cuisines du monde parce que c'est ce qui passionne Morgan Abou. Morgan, on ne l'a pas dit, mais en fait, c'est presque la deuxième vie, hein, Instagram,
c'est
Facebook.
C'est complètement une deuxième vie.
Hein, pour tous vos confrères et consoeurs aussi, Anne Debage qui nous parlait de chocolat, elle est pharmacienne de formation, mais par passion venue au chocolat. Alexis, il est barman, par passion venu à la pizza. Et vous, alors vous...
Eh bien, moi, je travaille dans le parfum et la cosmétique. Donc, finalement,
extraordinaire.
À avoir les deux passions en parallèle, j'adore. Et on passe de l'une à l'autre.
Et Priscilla Lanzarotti, qui nous terminera l'émission avec les plus belles pâtisseries, les plus beaux desserts. Elle a travaillé dans le... On va dans les grands corps d'État.
Institutionnel.
Hein. Voilà, dans l'institutionnel, puisqu'elle était à l'Assemblée nationale, attachée parlementaire. Donc voilà, au fond, c'est vraiment la deuxième vie des Instagrammeurs. Alors, Morgan, je vous ai fait venir parce que vous avez un mur sous votre nom qui fait la part belle vraiment aux cuisines du monde. On voit que vous aimez découvrir, vous aimez être un peu bousculé même dans vos habitudes de consommation.
Oui, moi mes parents sont un tunisien, l'autre polonais. J'ai beaucoup voyagé et c'est vrai que c'est des choses que je veux retrouver à Paris. Maintenant, Paris nous y aide beaucoup parce que aujourd'hui on voit l'essor depuis 2 ans de la cuisine méditerranéenne, beaucoup. Il y a une accélération très importante avec, on a vu Miss None qui a commencé à ouvrir le marché et maintenant tout le monde s'y est engouffré avec des choses vraiment intéressantes.
Alors attendez, quand vous dites méditerranéenne, il faut dire proche-orientale, hein, peut-être, hein, parce que pour ce qui est du Maghreb et de l'Afrique du Nord, on a déjà été bien gâtés, évidemment.
Il y a la pizza, faut pas m'oublier.
C'est la Méditerranée, bien sûr.
C'est vrai que le Levant, ce qu'on appelle le Levant, la cuisine tant la Grèce d'ailleurs, tant la Grèce que le Liban et surtout Israël, dont on n'entendait pas parler sur le plan gastronomique, Israël a éclaté là, à la rentrée.
Mais oui. Et donc on voit des chefs israéliens qui vraiment nous proposent une cuisine très vaste et pas forcément pure israélienne. Ils vont vraiment couvrir un éventail de cuisines. Moi, j'ai donc après Miznon, on a vu Balagan qui a voulu tout casser, etc. On voit qu'ils vont ouvrir d'ailleurs un nouvel établissement là très bientôt.
Ouais.
Et j'ai un grand coup de cœur que j'ai découvert la semaine dernière. Je vous le conseille à tous. C'est Passage des Panoramas.
C'est Chabour.
Non.
Non, c'est pas ça ? Ah non.
Adar.
Ne bougez pas, Adar. Je note.
Ah, ça y est. Alexia, sorti le smartphone.
Donc Adar, petite cuisine qui va faire tous les midis pour déjeuner. Juste le midi, chaque jour, deux plats différents, deux entrées différentes et qui nous emmène tous les épices de la région. Voilà, c'est d'une toute petite cuisine.
Ah, j'ai vu la photo sur Instagram.
C'est extraordinaire.
Des plats d'Adar.
Allez-y, c'est génial.
Et pour un rapport qualité-prix inégalable.
Oui. on est autour de 20 euros. Enfin, vraiment,
ça va, quoi.
C'est vraiment abordable et avec une qualité.
Genre de plat que vous avez goûté chez Adar pour nous donner une idée ?
Alors, ils travaillent beaucoup l'aubergine, par exemple, vraiment au four, avec même chose, il va aller vraiment sur les épices autour de l'aubergine. Il va ensuite aller sur des viandes marinées, grillées, excellentes, et des poissons.
Voilà. C'est intéressant, l'aubergine, parce que l'aubergine, ça signe cette partie du monde aussi.
Oui,
hein. L'aubergine, elle est née en Inde, pris la route de la soie, au fond, et arrivé naturellement en bord de Méditerranée par le Proche-Orient. Donc, beaucoup de cuisine à l'aubergine, Israël, Liban, Turquie, Grèce, hein, avec là, un petit foyer de l'aubergine, et c'est un fruit et un légume merveilleux.
J'ai eu un énorme coup de cœur, j'étais chez Chouk la semaine dernière, une aubergine nue, donc juste cuite comme ça sur le barbecue, sur de la trina, c'est extraordinaire, on n'a pas besoin de plus.
Quand on a un beau produit.
Mais oui, mais bien sûr.
Hein, d'ailleurs, on utilise l'aubergine en pizza de plus
énormément.
En plus. Hein.
L'aubergine, de toute façon, dans la cuisine italienne, c'est...
Ça en fait partie,
Il y a une pizzeria des poules comme ça qui le fait. Ils mettent une aubergine comme ça, coupée très très fine. Ils la font pas trop cuire, comme ça reste un peu craquante avec la pâte. C'est...
Et on peut même s'en servir comme pâte à pizza. Ouais, c'est-à-dire faire une sorte de parmigiana, quoi.
Je suis pas encore prêt à parler ce genre de choses.
Oui, oui. Attendez. Il est très orthodoxe, hein, Alexis Pizza Crusader, quand même. Morgan, alors, pour bouger un petit peu encore.
Alors, je vous emmène en Amérique du Sud, parce qu'il y a une grosse, grosse tendance sur le sujet.
Vous allez me parler du Pérou ?
Alors, oui, notamment.
Et oui, parce que c'est dingue, hein, cette apparition de la cuisine péruvienne,
c'est incroyable.
Depuis 2 ans.
On avait beaucoup le Mexique jusqu'à présent, et maintenant, le Pérou débarque. Alors, moi, j'ai expérimenté Coya, typiquement, la grosse entrée, ça vient d'ouvrir.
Où est-ce que ça se trouve ?
Alors, Beau Passage.
Ah oui. Vers les grands boulevards. Quoi.
Un endroit.
Ah non, c'est rive gauche.
Non, ouais, exactement.
Ah oui, d'accord.
Un peu caché dans Beau Passage, il faut vraiment aller découvrir l'endroit. Est absolument magnifique. Ils ont fait un effort sur la décoration. Plusieurs endroits très très festifs et voilà, une cuisine. Vraiment.
Ah bah, vous risquez pas de vous tromper, hein, si vous allez au Beau Passage. De toute façon, vous trouvez Yannick Aleno, Pierre Hermé,
Anne-Sophie Pic,
quelques jolis noms, et ce restaurant.
Voilà, donc. Exactement. Donc là, Coya, mais on a aussi d'autres restos que je veux vraiment mettre en valeur, comme Umanota, par exemple. Donc là, on passe de la grande cuisine festive, etc., à quelque chose de plus street food, sur du barbecue, sur vraiment, on prend un barbecue, alors là, plus vers le Brésil, où on va avoir une bonne viande bien marinée pendant 24 heures et qu'on met sur ces barbecues originaux. C'est absolument incroyable.
Dites donc, Morgan, je ne veux pas vous titiller, mais vous me parlez énormément de viande. Oui. De viande grillée notamment. Oui. On est quand même dans une tendance largement végétale et végétarienne. Ça vous soucie pas tellement?
Alors moi, ça me passe un petit peu. Disons que j'ai vu cette tendance arriver. Oui. On s'est engouffré comme...
J'ai rien contre les véganes, mais...
Ouais. Donc moi, j'adore aller dans un resto végan, il n'y a aucun problème. Mais il y a eu cette tendance, et aujourd'hui, je trouve moins que dans les ouvertures, on se concentre sur le végan. Souvent... D'ailleurs, j'ai été récemment dans un restaurant Hébé qui me dit bah, « Moi, j'ai fait ma cuisine méditerranéenne avec une partie végane. Donc, pour les véganes, je les accueille et je leur fais quelque chose. »
J'aime bien, excusez-moi, je vous coupe, hein, j'aime bien qu'on dise végétalien plutôt que végane. Ouais. C'est moins politisé. Ouais. Quoi, hein, ouais. C'est-à-dire une nourriture végétale sans protéines animales dedans, de quelque nature. Mais c'est vrai que, vous avez raison de signaler, de plus en plus de chefs, quel que soit le niveau, hein, qu'on soit dans les bistrots, qu'on soit dans la bistronomie, dans la gastronomie, réserve une petite part, voilà, ou une grosse part, et même dans la restauration rapide, de leur offre à une offre végétalienne, quoi, vraiment purement végétale.
C'est ça.
Et ça, on le voit partout, non? Vous qui passez votre temps dans les restaurants.
Ah oui, vraiment, c'est... voilà, certains ont décidé de se dédier à la cuisine végane, je pense que c'est mieux d'accueillir un peu tout le monde, et que voilà, on ait ce menu pour les personnes qui ne veulent surtout pas toucher à la viande.
Mais Priscilla était en train d'approuver. Vous allez nous parler de la pâtisserie dans un moment.
Oui, tout à fait.
C'est aussi une tendance qui se fait jour en pâtisserie, le végétalisme.
On va dire qu'on va travailler avec le beau et le sain.
Oui, d'accord.
Et le bon, avec des produits de qualité. Pas forcément le végétalisme, mais bon, ça se pratique beaucoup au Shangri-La.
Ouais. C'est un hôtel parisien.
Voilà. Et c'est des pâtisseries, on privilégie le vegan.
Ouais, c'est-à-dire lait d'amande, Attendez, qu'est-ce que j'ai vu pour du pois chiche, hein, remplacer le côté gélifiant de certains...
Hein, pour remplacer le blanc d'œuf.
Le blanc d'œuf. On va mettre de l'eau de pois chiche,
en fait. De l'eau de pois chiche qu'on va monter,
émulsionner,
Anne
de Bâche.
Et qui va faire tenir, en fait, par exemple, une mousse au chocolat.
Tiens, par hasard. De toute façon, quand elle prend la parole, Anne de Bâche, c'est pour parler chocolat.
Moi aussi, je vais presser pour ma paroisse. Hein, je veux dire, il y a le prêcher, on dit prêcher pour sa paroisse. Il y a aussi la marinara. Hein. La pizza marinara existe depuis
Oui, mais marinara, il n'y a pas de poisson dessus?
Non.
Mais non, justement.
Ah non. Non, ça, c'est la napolitaine.
Ah, attention.
Voilà. Hein, c'est une préparation de sauce tomate avec de l'ail, avec de l'origan.
Oui.
Moi, c'est que avec de l'origan. Il y en a qui rajoutent du basilic, mais moi, pour moi, c'est que de l'origan.
Attention.
Et la pâte. Voilà. Basta così.
Voilà, c'est un peu la pizza originelle.
Mais oui.
Hein, on n'est pas loin. Oui.
Pour moi, on critique une pizzeria sur sa marinara et sa margherita, bien sûr.
Ouais. Ah oui, d'accord. C'est comme le pain quand on arrive sur la table et qu'on le voit. Morgan, allez, encore un restaurant pour
Alors,
vous.
Ce que je voulais aussi juste mettre en valeur, c'est la donc un pour terminer sur la cuisine d'Amérique du Sud. Signaler que ben on a Oka qui vient d'avoir une étoile et moi je trouve ça extraordinaire parce qu'il fait un travail fantastique, donc bravo, ça y est, on rentre dans les étoiles et ensuite
avec une cuisine comment de quelle origine en
c'est
fait
Brésil
ouais. D'accord.
Et pour terminer toute la cuisine, alors revenons en France avec des chefs étrangers, ce que je trouve génial, qu'un chef étranger débarque à Paris et nous propose son point de vue sur notre propre cuisine.
S'approprie en fait la cuisine française.
Oui. Mon restaurant, vraiment restaurant préféré, ERH, qui aussi vient d'avoir une étoile, mais tout en très humble, dans la maison du saké. Extraordinaire. Donc un chef japonais vient en France et nous apporte toute cette finesse, cette délicatesse de la cuisine japonaise. Allez-y, le rapport à qualité-prix est incroyable. Et vraiment, c'est excellent. On pourrait aussi parler de la Condessa, Amérique latine, qui vient à Paris et qui aussi propose une cuisine.
Dans quel quartier?
Alors, c'est plus vers la rue des Martyrs.
Enfin, d'accord, au pied de la butte, voilà. On peut dire, en tout cas.
Et un que j'ai découvert cette semaine, qui s'appelle le Saint-Sébastien. Saint-Sébastien Froissart, allez-y.
Ça y est, Alexis reprend son
rapport qualité-prix. Donc là, on est toujours dans la vingtaine d'euros. C'est sans prétention à l'extérieur. Vous rentrez, un chef qui a été d'Amérique du Sud, mais qui a fait ses classes aux États-Unis, qui revient à Paris et qui nous propose une cuisine française, mais absolument incroyable.
Limpide. Comme quand on a un regard extérieur sur un problème, hein, qu'on prend de la hauteur et qu'on n'en sort que le meilleur.
Voilà. Et pour les viandards, quand on remplace le beurre par de l'os à moelle, Moi, ça me rend dingue. J'adore. Voilà.
Comment il s'appelle ce restaurant ?
Le Saint-Sébastien. À Paris. Voilà, merci. Merci, Morgan. Restez avec nous, bien entendu, parce que là, on est bien nourris déjà. On a pris de bonnes adresses et on va terminer, comme toujours en France, par le dessert dans une minute.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Soyons modestes, vous cherchez la tendance en restauration, en cuisine? Elle est ici, sur Sud Radio, Place du Marché. Vous connaissez l'adresse, mais vous ne connaissez pas forcément nos intervenants, ça ne va pas durer. Vous allez prendre vos smartphones, vos tablettes, votre ordinateur et vous allez trouver le chocolat dans tous nos états. Anne de Bâche qui va devoir nous quitter. Merci Anne, je sais que le club des croqueurs vous attend. Il y a du boulot.
Il y a du boulot.
Même le dimanche. Merci beaucoup d'être venu. Vous trouverez Alexis underscore. Underscore, vous savez ce que c'est? C'est le tiré du bas.
C'est un point en fait, Vincent. Hein? Tout simplement. Un petit point. Alexis,
ah bon,
point.
Ah, c'est point?
C'est un point.
Ah bon, alors d'accord.
Trop compliqué underscore.
Alexis.pizzacrusader sur Instagram. Morgan Abou avec 2B.
Avec 2B.
Très
merci.
Important. Très important. Et on termine notre tour de table avec Priscilla Lanzarotti. Et on termine notre repas du dimanche avec le dessert. Les pâtisseries, oui. C'est votre spécialité, Priscilla.
Oui, je suis une grande passionnée de pâtisserie et j'essaie de découvrir toujours plus d'adresses gourmandes.
Ah bah écoutez, ça marche très bien. Alors vous étiez en Sicile d'ailleurs, vous, comme
j'étais en Sicile,
cet été. Ouais. J'ai suivi vos aventures. Ouais. Vous avez été chercher de la pistache de Bronte.
J'ai été chercher la pistache.
C'est juste à côté
de
chez moi, ça.
Et j'ai d'ailleurs vu la pizza à la frite.
Ouais, la pizza frite, bon, c'est une spécialité napolitaine, attention.
Ah ouais. Mais pourtant, je l'ai vu.
Oui, les Siciliens, ils le font.
Ah oui.
On a une autre spécialité en Sicile, c'est la pizzette, qui est un petit peu différente. Extraordinaire.
Allez, passons de la pizzette à la petite tarte, à la tartelette, qui est en fait une pizzette sucrée, ça peut l'être en tout cas. Alors, Priscilla, deux formations, je le disais, ce n'est nullement vos métiers, à vous toutes et tous, que d'avoir été formés à la cuisine. C'est vraiment par passion, par goût. Vous, vous avez été attaché parlementaire. Donc, vous avez travaillé dans l'institutionnel. Et aujourd'hui, pratiquement 100% de votre activité maintenant, c'est le gâteau, quoi, la pâtisserie, le dessert.
Voilà, bah, j'ai une formation en communication et je me suis reconvertie en tant que consultante en communication dans le domaine de la gastronomie.
Ben voilà. Et alors vous avez votre mur Instagram où il y a des très 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 beaux gâteaux parce qu'en plus vous faites de belles photos, c'est important.
Merci.
C'est important quand on veut briller sur les réseaux sociaux, faut donner envie et c'est pas par l'arôme et le goût. Après on y vient, mais c'est évidemment par le visuel. Et je vous ai demandé un peu quelle était la tendance pâtissière de cette rentrée. On sait que les pâtissiers sont sortis de leur labo depuis 5 ans.
Voilà.
Un peu à la suite des grands noms de la pâtisserie, les Pierre Hermé, Cédric Grolet, qui est incroyable sur les réseaux sociaux, et tous leurs camarades, Michalak et même Cyril Lignac, par exemple, qui est passé de la cuisine à la pâtisserie. C'est quoi la tendance en cette rentrée?
Alors, on surfe sur plusieurs tendances. Alors, la première, c'est... un retour aux pâtisseries allégées en sucre.
Donc c'est important.
Voilà, on veut un retour aux gourmandises saines, des desserts moins culpabilisants. Les chefs vont désucrer la pâtisserie pour retrouver le goût franc du produit. Donc on va ajouter moins de sucre parce que ça comprend généralement le sucre, un manque de maturité du produit,
fruit,
ou même de qualité du produit.
Oui, mais là, vous parlez de fruits.
Ça, c'est surtout les fruits, parce que j'accentue sur ça, parce que c'est vrai qu'on redécouvre un peu les fruits grâce aux créations de chefs aujourd'hui. Ouais. J'en mange pas forcément tous les jours, et
Ah oui,
ça donne vraiment envie d'en consommer.
Je vais traduire pour vous qui nous écoutez. Après le rapport suivi Max, qu'elle a suivi, évidemment, Priscilla Lanzarotti, on lui dit manger 5 fruits et légumes par jour, elle mange 5 tartes et 5 gratins. C'est-à-dire, vous ne mangez pas
bon
le fruit naturel, vous le mangez mis en œuf, transformé, en gâteau ou en tarte.
Voilà, en gâteau ou en tarte.
Et là, je le répète encore, elle a une ligne absolument parfaite, alors qu'elle a accouché il n'y a pas si longtemps, et je ne sais pas comment vous faites.
C'est le sport.
C'est le sport, c'est courir les pâtisseries.
Voilà.
Alors, ça, c'est la tendance numéro 1, on désucre, mais encore.
On désucre, on peut le voir également avec des enseignes qui s'ouvrent de plus en plus, Anissa Pâtisserie à Nîmes.
Anissa Pâtisserie à Nîmes.
Donc c'est un peu dans le même objectif que les belles envies, sauf qu'il y a un suivi médical derrière chaque pâtisserie. Elles sont toutes que des diabétologues, de diététiciens.
C'est intéressant, ça.
Ah oui, et un vrai test.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être malade ou diabétique pour aller chez Anissa.
Hein, bien sûr, parce que tout le monde fait attention au sucre de plus en plus. C'est quand même un sujet qui nous occupe, hein, nous qui mangeons trop. De toute façon, tout le monde mange trop. Hein,
on mange jamais trop.
Hein. Chez nous en France. Hein. Mais globalement, on peut faire une différenciation entre Anissa, qui est vraiment un suivi médical par des diabétologues, etc., des médecins, et Les Belles Envies, qui promeut l'IGC, c'est-à-dire l'indice glycémique, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, contrôlé. Elle désucre, mais pas entièrement. Ce sont des sucres naturels non raffinés qui ne vont pas faire monter la glycémie, mais c'est un peu la même idée.
Non, c'est exactement la même idée, sauf que Anissa a souhaité approfondir beaucoup plus cette démarche.
D'accord. Et globalement, de toute façon, depuis 10 ans, voilà. On désucre partout en pâtisserie.
On désucre partout, même en chocolat.
Et c'est tellement meilleur finalement, même au goût. On retrouve le goût naturel.
Voilà. Oui, quel type de sucre on utilise alors ?
On utilise du sucre complet. Ouais. On dit, il y a les alternatives sur d'agave, etc. Bon, moi, je ne suis pas trop pour.
Sucre de coco aussi.
Le sucre de coco, Les Belles Envies
utilisent. Oui, bien sûr. Okay.
Voilà. Et puis, il y a aussi le vinaigre qui vient rehausser, par exemple, les tartes de Jessica Pralpato du Plaza Athénée, qui fait des desserts avec des fruits de saison. Et elle les sublime en mettant du vinaigre. Enfin,
ça, c'est dans la mesure où il y a des fruits. Hein.
Enfin, dans la mesure où il y a des fruits, pas dans du chocolat, bien entendu.
Mais vous aviez raison, Alexis, de parler du chocolat. Le chocolat, on l'a désucré depuis 10 ans formidablement.
Exactement.
Hein, c'est-à-dire que maintenant, ça n'aurait plus sens de manger un chocolat à 50% ou à 60%. Les gens demandent du 75%, au moins
70 minimum.
Donc notre goût évolue en même temps que les tendances. Et c'est ça qui est intéressant en pâtisserie aussi.
Voilà, tout à fait.
Bon, sur le plan du gâteau lui-même, est-ce qu'il y a des évolutions marquantes ?
Oui, il y a des alliances de plus en plus inattendues.
Ah, d'accord. Vous parliez de vinaigre dans les tartes, ça a été assez inattendu. Mais quoi d'autre, par exemple ? Vous voulez dire des produits d'origine différente ou qu'on ne marierait pas forcément, nous ?
Voilà, exactement. On a Pierre Hermé, récemment, il a fait sa tarte parmesan, framboise et poivron.
Ah ouais.
Alors, je l'ai goûté parce que j'étais très curieuse et ça se mariait parfaitement. On ressentait chaque saveur successivement.
Ça donne pas de mauvaise idée de pizzaïolo. Hein.
C'était une sorte d'entrée plat dessert en un.
Alors, je m'adresse aux pizzaïolo du monde entier. Laissez les framboises à Pierre Hermé.
Dans la pizza.
Ils expriment de plus en plus leur créativité à travers ces alliances. Et c'est très agréable. Claire Damon. Alors, Claire Damon qui ressort. Pâtissière à Paris qui ressort son chazadet. Pistache rose, c'est juste envoûtant.
Pistache et rose.
C'est envoûtant.
C'est très doux, du coup.
Hein, c'est très doux.
C'est très enveloppant.
Ah, mais c'est
goût.
Un nuage en bouche. Hein. C'est
un
incroyable.
Nuage en bouche. J'adore comment vous dites ça, voilà. Priscilla.
Voilà, nous avons ça. Et puis la tarte aussi de Michel Bartocchetti du Shangri-La.
Attendez. Là, on parlait de pâtissier boutique. Voilà. Hein, quand pâtissier on citait boutique, Pierre Hermé ou Claire Damon, voilà. C'est du pain et gâteau, c'est ça ?
Des gâteaux et du pain.
Des gâteaux et du pain, c'est les gâteaux avant le pain, hein, vous avez raison de le dire. Et le Shangri-La, en revanche, c'est un palace parisien. Parce qu'il faut savoir aussi, et c'est la tendance, on s'intéresse de plus en plus à la pâtisserie de restaurants et hôtels. Hein, avant, on parlait de pâtisserie, on parlait de boutique. Mais aujourd'hui, on va goûter les pâtisseries directement dans les restaurants d'hôtels, par exemple.
On court les tea time.
Les tea time, c'est ça, les salons de thé.
Et les brunch, d'ailleurs, c'est bientôt l'heure, donc il faut y aller.
Et donc, j'étais très surprise par cette tarte fraise fenouil, qui se mariait extrêmement bien. Il y avait une certaine fraîcheur qui ressortait en bouche. C'était agréable et c'était léger. C'était vraiment manié tout en finesse, c'était excellent.
Ça m'intéresse parce que le fenouil est quelque chose, un produit que j'aime beaucoup, hein, le bulbe de fenouil. On ne parle pas de la branche hein, dont on peut se servir éventuellement pour faire un loup au fenouil, vous voyez, une fois séché. Non, on parle du bulbe, c'est-à-dire c'est un peu comme la consistance d'un oignon, mais avec ce goût anisé qui est incroyable. Voilà. Et ça fait peur parfois le goût anisé.
Ça fait peur, mais quand c'est subtilement dosé,
Comme tout, en fait.
Ça marche.
Hein, parce que ce que met en exergue Pierre Hermé, c'est de dire que tout va avec tout, mais c'est exactement. Une question de proportion après. Et de choix des origines des produits aussi.
C'est exactement ça. Ouais. Et nous avons aussi un retour en force des pâtisseries traditionnelles.
Ah bah oui, voilà. Quand même, mais un peu retravaillé ou
retravaillé,
vraiment tradit.
On va faire évoluer les ingrédients, les techniques aussi, rendre les crèmes beaucoup plus légères, beaucoup plus onctueuses. On va décliner les saveurs, par exemple le Paris-Brest.
Ah bah ça, oui, alors là,
c'est une pâtisserie complètement classique.
Grand classique, merveilleux.
Donc, aujourd'hui, on trouve des Paris-Brest à la pistache. Donc là, je pense à la petite boulangerie Le Temps et le Pain dans le 14e
de
Paris, dont le chef est Ludovic Fontaillerand. Nicolas Bacher dans son Paris-New York aux cacahuètes.
Ah bah, alors là, c'est uniquement le dimanche, Nicolas Bacher ?
C'est un dimanche à Paris.
Voilà, non, mais je rigole. Hein. Évidemment, c'est ouvert toute la semaine, mais c'est le nom de la, voilà. C'est le nom de la boutique.
Et récemment, j'ai découvert le Paris-Brest aux amandes, donc pure amande, des belles manières, la boulangerie des belles manières. Voilà, à Châtelet.
Alors, si vous aimez le praliné comme moi, le Paris-Brest, c'est quand même l'expression la plus belle du praliné. Vous êtes d'accord, Morgan ?
Ouais, d'accord. Hein ? Je suis complètement d'accord.
Ah, bah, Alexis aussi. Ouais, tout le monde est d'accord. Parce qu'au fond, il y a deux façons de faire le praliné. Enfin, il y en a mille. Mais globalement, soit noisette, soit amande. Et dans le Paris-Brest, normalement, c'est souvent noisette-amande mélangée. Là, vous parlez d'un Paris-Brest pure amande.
C'est pure amande.
Et
c'est
génial. Beaucoup plus doux.
Doux, mais avec un peu de caractère apporté par ces amandes torréfiées qui sont voilà, qui expriment toute leur intensité. Et wow. C'est génial.
Et quand on parle réseaux sociaux, il n'y a rien de plus food porn qu'une découpe d'un Paris-Brest avec le Paris-Né.
Morgan, qu'est-ce que ça veut dire food porn ? Parce que ça fait peur aux gens qui nous écoutent. Food porn, en fait, c'est le... Parce que le mot porn, évidemment, fait référence et fait peur parce que ça fait référence au porno.
Oui.
Mais porno, ça veut dire le plus salivant du food,
mais
de la nourriture.
C'est exactement ça. C'est ce qui donne... Oui, c'est ce qui fait saliver. Voilà. C'est...
La pulsion, quoi.
Ouais,
hein,
exactement.
C'est ça,
absolu.
Oui. Voilà. Bon, bah, merci à vous tous. Merci Priscilla Lanzarotti, que vous retrouvez sur Instagram sous ce nom-là. Merci Morgan Abou avec 2B qu'on retrouve également sous ce nom-là.
Merci.
Et Alexis Pizza Crusader, alexis.pizzacrusader, si vous aimez les pizzas. Vous retrouverez évidemment cette émission en podcast si vous avez raté les palmarès. Anne Debache a dû nous quitter avec ses meilleures tablettes de chocolat. La semaine prochaine, eh bien, on se retrouve ici même, vous connaissez l'adresse, et à 10h. Alors, on prolongera un peu l'été et les vacances en parlant d'un produit qu'on adore. Alexis va pas me démentir, l'huile d'olive. Avant de passer à l'hiver, enfin à l'automne déjà. Et la rentrée n'est pas si simple pour l'huile d'olive en Europe. Vous le comprendrez dimanche prochain. D'ici là, bonne semaine, bon déjeuner du dimanche avec Sud Radio.
Sud Radio, place du marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.